Fénelon, l'éducation des filles, sélection. Chapitre 5, instructions indirectes. Il ne faut pas presser les enfants. Je crois même qu'il faudrait souvent se servir de ces instructions indirectes, qui ne sont point ennuyeuses comme les leçons et les remontrances, seulement pour réveiller leur attention sur les exemples qu'on leur donnerait. Une personne pourrait demander quelquefois devant eux à une autre « Pourquoi faites-vous cela ?» Et l'autre répondrait « Je le fais par telle raison. » Par exemple, « Pourquoi avez-vous avoué votre faute ?»« C'est que j'en aurais fait encore une plus grande de la désavouer lâchement, par un mensonge. » Et qu'il n'y a rien de plus beau que de dire franchement « j'ai tort ». Après cela, la première personne peut louer celle qui s'est ainsi accusée elle-même. Mais il faut que tout cela se fasse sans affectation, car les enfants sont bien plus pénétrants qu'on ne croit. Et dès qu'ils ont aperçu quelque finesse dans ceux qui les gouvernent, ils perdent la simplicité et la confiance qui leur sont naturelles. Nous avons remarqué que le cerveau des enfants est tout ensemble chaud et humide, ce qui leur cause un mouvement continuel. Cette mollesse du cerveau fait que toute chose s'y imprime facilement et que les images de tous les objets sensibles y sont très vives. Ainsi, il faut se hâter d'écrire dans leur tête pendant que les caractères s'y forment aisément. Mais il faut bien choisir les images qu'on y doit graver, car on ne doit verser dans un réservoir si petit et si précieux que des choses exquises. Il faut se souvenir qu'on ne doit à cet âge verser dans les esprits que ce qu'on souhaite qui y demeure toute la vie. Les premières images gravées pendant que le cerveau est encore mou et que rien n'y est décrit sont les plus profondes. D'ailleurs, elles se durcissent à mesure que l'âge dessèche le cerveau. Ainsi, elles deviennent ineffaçables. De là vient que, quand on est vieux, on se souvient distinctement des choses de la jeunesse, quoique éloignées, au lieu qu'on se souvient moins de celles qu'on a vues dans un âge plus avancé, parce que les traces en ont été faites dans le cerveau lorsqu'il était déjà desséché et plein d'autres images. Quand on entend faire ces raisonnements, on a peine à les croire. Il est pourtant vrai qu'on raisonne de même sans s'en apercevoir. Ne dit-on pas tous les jours « J'ai pris mon pli, je suis trop vieux pour changer, j'ai été nourri de cette façon ». D'ailleurs, ne sent-on pas un plaisir singulier à rappeler les images de la jeunesse ? Les plus fortes inclinations ne sont-elles pas celles qu'on a prises à cet âge? Tout cela ne prouve-t-il pas que les premières impressions et les premières habitudes sont les plus fortes? Si l'enfant s'est propre à graver des images dans le cerveau, il faut avouer qu'elle l'est moins au raisonnement. Cette humidité du cerveau qui rend les impressions faciles est enjointe à une grande chaleur fait une agitation qui empêche toute application suivie. Le cerveau des enfants est comme une bougie allumée dans un lieu exposé au vent. Sa lumière vacille toujours. L'enfant vous fait une question. Et avant que vous répondiez, ses yeux s'enlèvent vers le plancher. Il compte toutes les figures qui y sont peintes ou tous les morceaux de vitre qui sont aux fenêtres. Si vous voulez le ramener à son premier objet, vous le gênez comme si vous le teniez en prison. Ainsi, il faut ménager avec grand soin les organes en attendant qu'ils s'affermissent. Répondez-lui promptement à sa question et laissez-lui en faire d'autres à son gré. Entretenez seulement sa curiosité et faites venir dans sa mémoire un amas de bons matériaux. viendra le temps qu'ils s'assembleront d'eux-mêmes, et que le cerveau ayant plus de consistance, l'enfant raisonnera de suite. Cependant, bornez-vous à le redresser quand il ne raisonnera pas juste, et à lui faire sentir sans empressement, selon les ouvertures qu'il vous donnera, ce que c'est que tirer droit d'une conséquence. Laissez donc jouer un enfant et mêlez l'instruction avec le jeu. Que la sagesse ne se montre à lui que par intervalles et avec un visage riant. Gardez-vous de le fatiguer par une exactitude indiscrète. Si l'enfant se fait une idée triste et sombre de la vertu, si la liberté et le dérèglement se présentent à lui sous une figure agréable, tout est perdu, vous travaillez en vain. Ne le laissez jamais flatter par de petits esprits ou par des gens sans règles. On s'accoutume à aimer les mœurs et les sentiments des gens qu'on aime. Le plaisir qu'on trouve d'abord avec les malhonnêtes gens fait peu à peu estimer ce qu'ils ont même de méprisable. Pour rendre les gens de bien agréables aux enfants, faites-leur remarquer ce qu'ils ont d'aimable et de commode, leur sincérité, leur modestie, leur désintéressement, leur fidélité, leur discrétion, mais surtout leur piété, qui est la source de tout le reste. Si quelqu'un d'entre eux a quelque chose de choquant, dites « La piété ne donne point ces défauts-là. Quand elle est parfaite, elle les ôte, ou du moins, elle les adoucit. » Après tout, il ne faut point s'opiniâtrer à faire goûter aux enfants certaines personnes pieuses dont l'extérieur est dégoûtant. Quoi que vous veilliez sur vous-même pour n'y laisser rien voir que de bon, n'attendez pas que l'enfant ne trouve jamais aucun défaut en vous. Souvent, il apercevra jusqu'à vos fautes les plus légères. Saint Augustin nous apprend qu'il avait remarqué dès son enfance la vanité de ses maîtres sur les études. Ce que vous avez de meilleur et de plus pressé à faire, c'est de connaître vous-même vos défauts aussi bien que l'enfant les connaîtra, et de vous en faire avertir par des amis sincères. D'ordinaire, ceux qui gouvernent les enfants ne leur pardonnent rien et se pardonnent tout à eux-mêmes. Cela excite dans les enfants un esprit de critique et de malignité, de façon que, quand ils ont vu faire quelque faute à la personne qui les gouverne, ils en sont ravis et ne cherchent qu'à la mépriser. Évitez cet inconvénient. Ne craignez point de parler des défauts qui sont visibles en vous et des fautes qui vous auront échappé devant l'enfant. Si vous le voyez capable d'entendre raison là-dessus, dites-lui que vous voulez lui donner l'exemple de se corriger de ses défauts en vous corrigeant des vôtres. Par là, vous tirerez de vos imperfections même de quoi instruire et édifier l'enfant, de quoi l'encourager pour sa correction. Vous éviterez même le mépris et le dégoût que vos défauts pourraient lui donner pour votre personne. En même temps, il faut chercher tous les moyens de rendre agréable à l'enfant les choses que vous exigez de lui. En avez-vous quelqu'une de fâcheuse à proposer? Faites-lui entendre que la peine sera bientôt suivie du plaisir. Montrez-lui toujours l'utilité des choses que vous lui enseignez. Faites-lui en voir l'usage par rapport au commerce du monde et au devoir des conditions. Sans cela, l'étude lui paraît un travail abstrait, stérile et épineux. À quoi sert, disent-ils en eux-mêmes, d'apprendre toutes ces choses dont on ne parle point dans les conversations et qui n'ont aucun rapport à tout ce qu'on est obligé de faire? Il faut donc leur rendre raison de tout ce qu'on leur enseigne. C'est, leur direz-vous, pour vous mettre en état de bien faire ce que vous ferez un jour. C'est pour vous former le jugement. C'est pour vous accoutumer à bien raisonner sur toutes les affaires de la vie. Il faut toujours leur montrer un but solide et agréable qui les soutienne dans le travail et ne prétendre jamais les assujettir par une autorité sèche et absolue. À mesure que leur raison augmente, il faut aussi de plus en plus raisonner avec eux sur les besoins de leur éducation, non pour suivre toutes leurs pensées, mais pour en profiter lorsqu'ils feront connaître leur état véritable, pour éprouver leur discernement et pour leur faire goûter les choses qu'on veut qu'ils fassent. Ne prenez jamais sans une extrême nécessité un air austère et impérieux qui fait trembler les enfants. Souvent, c'est affectation et pédanterie dans ceux qui gouvernent. Car pour les enfants, ils ne sont d'ordinaire que trop timides et honteux. Vous leur fermeriez le cœur et leur ôteriez la confiance sans laquelle il n'y a nul fruit à espérer de l'éducation. Faites-vous aimer d'eux, qu'ils soient libres avec vous et qu'ils ne craignent point de vous laisser voir leurs défauts. Pour y réussir, soyez indulgents à ceux qui ne se déguisent point devant vous. Ne paraissez ni étonnés ni irrités de leurs mauvaises inclinations. Au contraire, compatissez à leurs faiblesses. Quelquefois, il en arrivera cet inconvénient qu'ils seront moins retenus par la crainte. Mais à tout prendre, la confiance et la sincérité leur sont plus utiles que l'autorité rigoureuse. D'ailleurs, l'autorité ne laissera pas de trouver sa place si la confiance et la persuasion ne sont pas assez fortes. Mais il faut toujours commencer par une conduite ouverte, gaie et familière sans bassesse, qui vous donne moyen de voir agir les enfants dans leur état naturel et de les connaître à fond. Enfin, quand même vous les réduiriez par l'autorité à observer toutes vos règles, vous n'iriez pas à votre but. Tout se tournerait en formalité gênante et peut-être en hypocrisie. Vous les dégoûteriez du bien dont vous devez chercher uniquement de leur inspirer l'amour. Si le sage a toujours recommandé aux parents de tenir la verge assidûment levée sur les enfants, s'il a dit qu'un père qui se joue avec son fils pleurera dans la suite, ce n'est pas qu'il ait blâmé une éducation douce et patiente. Il condamne seulement ses parents faibles et inconsidérés qui flattent les passions de leurs enfants et qui ne cherchent qu'à s'en divertir pendant leur enfance, jusqu'à leur souffrir toutes sortes d'excès. Ce qu'il faut en conclure est que les parents doivent toujours conserver de l'autorité pour la correction, car il y a des naturels qu'il faut dompter par la crainte. Mais encore une fois, il ne faut le faire que quand on ne saurait faire autrement. Un enfant qui n'agit encore que par imagination et qui confond dans sa tête les choses qui se présentent à lui liées ensemble est l'étude et la vertu, parce qu'il est prévenu d'aversion pour la personne qui lui en parle. Voilà d'où vient cette idée si sombre et si affreuse de la piété qu'il retient toute sa vie. C'est souvent tout ce qui lui reste d'une éducation sévère. Souvent, il faut tolérer des choses qui auraient besoin d'être corrigées et attendre le moment où l'esprit de l'enfant sera disposé à profiter de la correction. Ne le reprenez jamais, ni dans son premier mouvement, ni dans le vôtre. Si vous le faites dans le vôtre, il s'aperçoit que vous agissez par humeur et par promptitude, et non par raison et par amitié. Vous perdez sans ressource votre autorité. Si vous le reprenez dans son premier mouvement, il n'a pas l'esprit assez libre pour avouer sa faute, pour vaincre sa passion et pour sentir l'importance de vos avis. C'est même exposer l'enfant à perdre le respect qu'il vous doit. montrez-lui toujours que vous vous possédez. Rien ne le lui fera mieux voir que votre patience. Observez tous les moments pendant plusieurs jours, s'il le faut, pour bien placer une correction. Ne dites point à l'enfant son défaut sans ajouter quelques moyens de le surmonter qui l'encouragent à le faire. Car il faut éviter le chagrin et le découragement que la correction inspire quand elle est sèche. Si on trouve un enfant un peu raisonnable, je crois qu'il faut l'engager insensiblement à demander qu'on lui dise ses défauts. C'est le moyen de les lui dire sans l'affliger. Ne lui en dites même jamais plusieurs à la fois. Il faut considérer que les enfants ont la tête faible, que leur âge ne les rend encore sensibles qu'au plaisir, et qu'on leur demande souvent une exactitude et un sérieux dont ce qu'il exige serait incapable. On fait même une dangereuse impression d'ennui et de tristesse sur leur tempérament en leur parlant toujours des mots et des choses qu'ils n'entendent point. Nulle liberté, nul enjouement, toujours leçon, silence, posture gênée, correction et menace. Les anciens l'entendaient bien mieux. C'est par le plaisir des vers et de la musique que les principales sciences, les maximes des vertus et la politesse des mœurs s'introduisirent chez les Hébreux, chez les Égyptiens et chez les Grecs. Les gens sans lecture ont peine à le croire, tant cela est éloigné de nos coutumes. Cependant, si peu qu'on connaisse l'histoire, il n'y a pas moyen de douter que ce n'ait été la pratique vulgaire de plusieurs siècles. Du moins, retranchons-nous dans le nôtre à joindre l'agréable à l'utile autant que nous le pouvons. Mais, quoi qu'on ne puisse guère espérer de se passer toujours d'employer la crainte pour le commun des enfants, dont le naturel est dur et indocile, il ne faut pourtant y avoir recours qu'après avoir éprouvé patiemment tous les autres remèdes. Il faut même toujours faire entendre distinctement aux enfants à quoi se réduit tout ce qu'on leur demande, et moyennant quoi on sera content d'eux, car il faut que la joie et la confiance soient leur disposition ordinaire. Autrement, on obscurcit leur esprit, on abat leur courage, s'ils sont vifs, on les irrite, s'ils sont mous, on les rend stupides. La crainte est comme les remèdes violents qu'on emploie dans les maladies extrêmes. Ils purgent, mais ils altèrent le tempérament et usent les organes. Une âme menée par la crainte en est toujours plus faible. Au reste, quoiqu'il ne faille pas toujours menacer sans châtier, de peur de rendre les menaces méprisables, il faut pourtant châtier encore moins qu'on ne menace. Pour les châtiments, la peine doit être aussi légère qu'il est possible, mais accompagnée de toutes les circonstances qui peuvent piquer l'enfant de honte et de remords. Par exemple, montrez-lui tout ce que vous avez fait pour éviter cette extrémité. Paraissez-lui en affligé. Parlez devant lui avec d'autres personnes du malheur de ceux qui manquent de raison et d'honneur jusqu'à se faire châtier. Retranchez les marques d'amitié ordinaires jusqu'à ce que vous voyez qu'il ait besoin de consolation. Rendez ce châtiment public ou secret, selon que vous jugerez qu'il sera plus utile à l'enfant ou de lui causer une grande honte ou de lui montrer qu'on la lui épargne. Réservez cette honte publique pour servir de dernier remède. Servez-vous quelquefois d'une personne raisonnable qui console l'enfant, qui lui dise ce que vous ne devez pas alors lui dire vous-même, qui le guérisse de la mauvaise honte, qui le dispose à revenir à vous, et auquel l'enfant, dans son émotion, puisse ouvrir son cœur plus librement qu'il n'oserait le faire devant vous. Mais surtout, qu'il ne paraisse jamais que vous demandiez de l'enfant que les soumissions nécessaires. Tâchez de faire en sorte qu'il s'y condamne lui-même, qu'il s'exécute de bonne grâce et qu'il ne vous reste qu'à adoucir la peine qu'il aura acceptée. Chacun doit employer les règles générales selon les besoins particuliers. Les hommes, et surtout les enfants, ne se ressemblent pas toujours à eux-mêmes. Ce qui est bon aujourd'hui est dangereux demain. Une conduite toujours uniforme ne peut être utile. Le moins qu'on peut faire de leçons en forme, c'est le meilleur. On peut insinuer une infinité d'instructions plus utiles que les leçons mêmes dans des conversations gaies. J'ai vu divers enfants qui ont appris à lire en se jouant. On n'a qu'à leur raconter des choses divertissantes qu'on tire d'un livre en leur présence et leur faire connaître insensiblement les lettres. Après cela, ils souhaitent d'eux-mêmes de pouvoir aller à la source de ce qui leur a donné du plaisir. Les deux choses qui gâtent tout, c'est qu'on leur fait apprendre à lire d'abord en latin, ce qui leur ôte tout le plaisir de la lecture, et qu'on veut les accoutumer à lire avec une emphase forcée et ridicule. Il faut leur donner un livre bien relié, doré même sur la tranche, avec de belles images et des caractères bien formés. Tout ce qui réjouit l'imagination facilite l'étude. Il faut tâcher de choisir un livre plein d'histoires courtes et merveilleuses. Cela fait, ne soyez pas en peine que l'enfant n'apprenne à lire. Ne le fatiguez pas même pour le faire lire exactement. Laissez-le prononcer naturellement comme il parle. Les autres tons sont toujours mauvais et sentent la déclamation du collège. Quand sa langue sera dénouée, sa poitrine plus forte et l'habitude de lire plus grande, il lira sans peine, avec plus de grâce et plus distinctement. La manière d'enseigner à écrire doit être à peu près de même. Quand les enfants savent déjà un peu lire, on peut leur faire un divertissement de former des lettres. Et s'ils sont plusieurs ensemble, il faut y mettre de l'émulation. Les enfants se portent d'eux-mêmes à faire des figures sur le papier. Si peu qu'on aide cette inclination sans la gêner trop, ils formeront les lettres en se jouant et s'accoutumeront peu à peu à écrire. On peut même les y exciter en leur promettant quelques récompenses qui soient de leur goût et qui n'aient point de conséquences dangereuses. « Écrivez-moi un billet, dira-t-on. Mandez telle chose à votre frère ou à votre cousin. » Tout cela fait plaisir à l'enfant, pourvu qu'aucune image triste de leçon réglée ne le trouble. « Une libre curiosité, disait saint Augustin, sur sa propre expérience, excite bien plus l'esprit des enfants qu'une règle et une nécessité imposées par la crainte. » Remarquez un grand défaut des éducations ordinaires. On met tout le plaisir d'un côté et tout l'ennui de l'autre. Tout l'ennui dans l'étude, tout le plaisir dans les divertissements. Que peut faire un enfant sinon supporter impatiemment cette règle et courir ardemment après les jeux? Tâchons donc de changer cet ordre. Rendons l'étude agréable. Cachons-la sous l'apparence de la liberté et du plaisir. Souffrons que les enfants interrompent quelquefois l'étude par de petites saillies de divertissement. Ils ont besoin de ces distractions pour délasser leur esprit. Laissons leur vue se promener un peu. Permettons-leur même de temps en temps quelques digressions ou quelques jeux, afin que leur esprit se mette au large. Puis ramenons-les doucement au but. Une régularité trop exacte pour exiger d'eux des études sans interruption leur nuit beaucoup. Souvent, ceux qui les gouvernent affectent cette régularité parce qu'elle leur est plus commode qu'une suggestion continuelle à profiter de tous les moments. En même temps, ôtons au divertissement des enfants tout ce qui peut les passionner trop, mais tout ce qui peut délasser l'esprit, lui offrir une variété agréable, satisfaire sa curiosité pour les choses utiles, exercer le corps aux arts convenables. Tout cela doit être employé dans les divertissements des enfants. Ceux qu'ils aiment le mieux sont ceux où le corps est en mouvement. Ils sont contents pourvu qu'ils changent souvent de place. Un volant ou une boule suffit. Ainsi, il ne faut pas être en peine de leur plaisir. Ils en inventent assez eux-mêmes. Il suffit de les laisser faire, de les observer avec un visage gai et de les modérer dès qu'ils s'échauffent trop. Il est bon seulement de leur faire sentir, autant qu'il est possible, les plaisirs que l'esprit peut donner, comme la conversation, les nouvelles, les histoires, et plusieurs jeux d'industrie qui renferment quelques instructions. Tout cela aura son usage en son temps. Mais il ne faut pas forcer le goût des enfants là-dessus. On ne doit que leur offrir des ouvertures. Un jour, leur corps sera moins disposé à se remuer et leur esprit agira davantage. Le soin qu'on prendra cependant à assaisonner de plaisir les occupations sérieuses servira beaucoup à ralentir l'ardeur de la jeunesse pour les divertissements dangereux. C'est la suggestion et l'ennui qui donnent tant d'impatience de se divertir. Si une fille s'ennuyait moins à être auprès de sa mère, elle n'aurait pas tant d'envie de lui échapper pour aller chercher des compagnies moins bonnes. Dans le choix des divertissements, il faut éviter toutes les sociétés suspectes. Point de garçon avec les filles, ni même de filles dont l'esprit ne soit réglé et sûr. Les jeux qui dissipent et qui passionnent trop, ou qui accoutument à une agitation de corps immodeste pour une fille, les fréquentes sorties de la maison et les conversations qui peuvent donner l'envie d'en sortir souvent, doivent être évitées. Quand on ne s'est encore gâté par aucun grand divertissement et qu'on n'a fait naître en soi aucune passion ardente, on trouve aisément la joie. La santé et l'innocence en sont les vraies sources. Mais les gens qui ont eu le malheur de s'accoutumer aux plaisirs violents perdent le goût des plaisirs modérés et s'ennuient toujours dans une recherche inquiète de la joie. On se gâte le goût pour les divertissements comme pour les viandes. On s'accoutume tellement aux choses de haut goût que les viandes communes et simplement assaisonnées deviennent fades et insipides. Craignons donc ces grands ébranlements de l'âme qui préparent l'ennui et le dégoût. Surtout, ils sont plus à craindre pour les enfants qui résistent moins à ce qu'ils sentent et qui veulent être toujours émus. Tenons-les dans le goût des choses simples, qu'il ne faille pas de grands apprêts de viande pour les nourrir, ni de divertissements pour les réjouir. La sobriété donne toujours assez d'appétit sans avoir besoin de le réveiller par des ragoûts qui portent à l'intempérance. La tempérance, disait un ancien, est la meilleure ouvrière de la volupté. Avec cette tempérance qui fait la santé du corps et de l'âme, on est toujours dans une joie douce et modérée. On n'a besoin ni de machines, ni de spectacles, ni de dépenses pour se réjouir. Un petit jeu qu'on invente, une lecture, un travail qu'on entreprend, une promenade, une conversation innocente qui délasse après le travail, font sentir une joie plus pure que la musique la plus charmante. Les plaisirs simples sont moins vifs et moins sensibles, il est vrai. Les autres enlèvent l'âme en remuant les ressorts des passions. Mais les plaisirs simples sont d'un meilleur usage. Ils donnent une joie égale et durable, sans aucune suite maligne. Ils sont toujours bienfaisants, au lieu que les autres plaisirs sont comme les vins frelatés, qui plaisent d'abord plus que les naturels, mais qui altèrent et qui nuisent à la santé. Le tempérament de l'âme se gâte, aussi bien que le goût, par la recherche de ses plaisirs vifs et piquants. Tout ce qu'on peut faire pour les enfants qu'on gouverne, c'est de les accoutumer à cette vie simple, d'en fortifier en eux l'habitude le plus longtemps qu'on peut, de les prévenir de la crainte des inconvénients attachés aux autres plaisirs, et de ne les point abandonner à eux-mêmes, comme on fait d'ordinaire, dans l'âge où les passions commencent à se faire sentir, et où par conséquent ils ont plus besoin d'être retenus. Il faut avouer que de toutes les peines de l'éducation, aucune n'est comparable à celle d'élever des enfants qui manquent de sensibilité. Les naturels vifs et sensibles sont capables de terribles égarements. Les passions et la présomption les entraînent. Mais aussi, ils ont de grandes ressources et reviennent souvent de loin. L'instruction est en eux un germe caché qui pousse et qui fructifie quelquefois quand l'expérience vient au secours de la raison et que les passions s'attiédissent. Au moins, on sait par où on peut les rendre attentifs et réveiller leur curiosité. On a en eux de quoi les intéresser à ce qu'on leur enseigne et les piquer d'honneur. Au lieu qu'on n'a aucune prise sur les naturels indolents. Toutes les pensées de ceux-ci sont des distractions. Ils ne sont jamais où ils doivent être. On ne peut même les toucher jusqu'au vif par les corrections. Ils écoutent tout et ne sentent rien. Cette indolence rend l'enfant négligent et dégoûté de tout ce qu'il fait. C'est alors que la meilleure éducation court risque d'échouer si on ne se hâte d'aller au-devant du mal dès la première enfance. Beaucoup de gens qui n'approfondissent guère concluent de ce mauvais succès que c'est la nature qui fait tout pour former des hommes de mérite et que l'éducation n'y peut rien, au lieu qu'il faudrait seulement conclure qu'il y a des naturels semblables aux terres ingrates sur qui la culture fait peu. C'est encore bien pire quand ces éducations si difficiles sont traversées ou négligées ou mal réglées dans leur commencement. Il faut encore observer qu'il y a des naturels d'enfants auxquels on se trompe beaucoup. Ils paraissent d'abord jolis, parce que les premières grâces de l'enfant sont un lustre qui couvre tout. On y voit je ne sais quoi de tendre et d'aimable, qui empêche d'examiner de près le détail des traits du visage. Tout ce qu'on trouve d'esprit en eux surprend, parce qu'on n'en attend point de cet âge. Toutes les fautes de jugement leur sont permises et ont la grâce de l'ingénuité. On prend une certaine vivacité du corps qui ne manque jamais de paraître dans les enfants pour celle de l'esprit. De là vient que l'enfance semble promettre tant et qu'elle donne si peu. Telle a été célèbre par son esprit à l'âge de 5 ans, qui est tombée dans l'obscurité et dans le mépris à mesure qu'on l'a vu croître. De toutes les qualités qu'on voit dans les enfants, il n'y en a qu'une sur laquelle on puisse compter. C'est le bon raisonnement. Ils croient toujours avec eux pourvu qu'ils soient bien cultivés. Les grâces de l'enfant s'effacent, la vivacité s'éteint, la tendresse de cœur se perd même souvent. Parce que les passions et le commerce des hommes politiques endurcissent insensiblement les jeunes gens qui entrent dans le monde. Tâchez donc de découvrir, au travers des grâces de l'enfance, si le naturel que vous avez à gouverner manque de curiosité et s'il est peu sensible à une honnête émulation. En ce cas, il est difficile que toutes les personnes chargées de son éducation ne se rebute bientôt dans un travail si ingrat et si épineux. Il faut donc remuer promptement tous les ressorts de l'âme de l'enfant pour le tirer de cet assoupissement. Si vous prévoyez cet inconvénient, ne pressez pas d'abord les instructions suivies. Gardez-vous bien de charger sa mémoire, car c'est ce qui étonne et qui appesantit le cerveau. Ne le fatiguez point par des règles gênantes. égayez-le. Puisqu'il tombe dans l'extrémité contraire à la présomption, ne craignez point de lui montrer avec discrétion de quoi il est capable. Contentez-vous de peu. Faites-lui remarquer ses moindres succès. Représentez-lui combien mal à propos il a craint de ne pouvoir réussir dans des choses qu'il fait bien. Mettez en œuvre l'émulation. La jalousie est plus violente dans les enfants qu'on ne saurait se l'imaginer. On en voit quelquefois qui sèchent et qui dépérissent d'une langueur secrète parce que d'autres sont plus aimés et plus caressés qu'eux. C'est une cruauté trop ordinaire aux mères que de leur faire souffrir ce tourment. Mais il faut savoir employer ce remède dans les besoins pressants contre l'indolence. Mettez devant l'enfant que vous élevez d'autres enfants qui ne fassent guère mieux que lui. Des exemples disproportionnés à sa faiblesse achèveraient de le décourager. Donnez-lui de temps en temps de petites victoires sur ceux dont il est jaloux. Engagez-le, si vous le pouvez, à rire librement avec vous de sa timidité. Faites-lui voir des gens timides comme lui, qui surmontent enfin leur tempérament. Apprenez-lui par des instructions indirectes, à l'occasion d'autrui, que la timidité et la paresse étouffent l'esprit, que les gens mous et inappliqués, quelque génie qu'ils aient, se rendent imbéciles et se dégradent eux-mêmes. Mais gardez-vous bien de lui donner ces instructions d'un ton austère et impatient, car rien ne renfonce tant au-dedans de lui-même un enfant mou et timide que la rudesse. Au contraire, redoublez vos soins pour assaisonner de facilité et de plaisir proportionné à son naturel le travail que vous ne pouvez lui épargner. Peut-être faudra-t-il même de temps en temps le piquer par le mépris et par les reproches. Vous ne devez pas le faire vous-même. Il faut qu'une personne inférieure, comme un autre enfant, le fasse, sans que vous paraissiez le savoir. Saint Augustin raconte qu'un reproche fait à Sainte Monique, sa mère, dans son enfance, par une servante, la toucha jusqu'à la corriger d'une mauvaise habitude de boire du vin pur, dont la véhémence et la sévérité de sa gouvernante n'avaient pu la préserver. Enfin, il faut tâcher de donner du goût à l'esprit de ces sortes d'enfants, comme on tâche d'en donner au corps de certains malades. On leur laisse chercher ce qui peut guérir leur dégoût. On leur souffre quelques fantaisies, aux dépens même des règles, pourvu qu'elles n'aillent pas à des excès dangereux. Il est bien plus difficile de donner du goût à ceux qui n'en ont pas que de former le goût de ceux qui ne l'ont pas encore tel qu'il doit être. Il y a une autre espèce de sensibilité, encore plus difficile et plus importante à donner. C'est celle de l'amitié. Dès qu'un enfant en est capable, il n'est plus question que de tourner son cœur vers des personnes qui lui soient utiles. L'amitié le mènera presque à toutes les choses qu'on voudra de lui. On a un lien assuré pour l'attirer au bien, pourvu qu'on sache s'en servir. Il ne reste plus à craindre que l'excès ou le mauvais choix dans ses affections. Mais il y a d'autres enfants qui naissent politiques, cachés, indifférents, pour rapporter secrètement tout à eux-mêmes. Ils trompent leurs parents, que la tendresse rend crédules. Ils font semblant de les aimer. Ils étudient leurs inclinations pour s'y conformer. Ils paraissent plus dociles que les autres enfants du même âge, qui agissent sans déguisement selon leur humeur. Leur souplesse, qui cache une volonté âpre, paraît une véritable douceur. Et leur naturel dissimulé ne se déploie tout entier que quand il n'est plus temps de le redresser. S'il y a quelque naturel d'enfant sur lequel l'éducation ne puisse rien, on peut dire que c'est celui-là. Et cependant, il faut avouer que le nombre en est plus grand qu'on ne s'imagine. Les parents ne peuvent se résoudre à croire que leurs enfants aient le cœur mal fait. Quand ils ne veulent pas le voir d'eux-mêmes, personne n'ose entreprendre de les en convaincre. Et le mal augmente toujours. Le principal remède serait de mettre les enfants, dès le premier âge, dans une grande liberté de découvrir leurs inclinations. Il faut toujours les connaître à fond avant que de les corriger. Ils sont naturellement simples et ouverts, mais si peu qu'on les gêne ou qu'on leur donne quelques exemples de déguisement, ils ne reviennent plus à cette première simplicité. Il est vrai que Dieu seul donne la tendresse et la bonté de cœur. On peut seulement tâcher de l'exciter par des exemples généreux, par des maximes d'honneur et de désintéressement, par le mépris des gens qui s'aiment trop eux-mêmes. Il faut essayer de faire goûter de bonheur aux enfants avant qu'ils aient perdu cette première simplicité des mouvements les plus naturels, le plaisir d'une amitié cordiale et réciproque. Rien n'y servira tant que de mettre d'abord auprès d'eux des gens qui ne leur montrent jamais rien de dur, de faux, de bas et d'intéressé. Il vaudrait mieux souffrir auprès d'eux des gens qui auraient d'autres défauts et qui fussent exempts de ces deux-là. Il faut encore louer les enfants de tout ce que l'amitié leur fait faire, pourvu qu'elle ne soit point trop déplacée ou trop ardente. Il faut encore que les parents leur paraissent pleins d'une amitié sincère pour eux, car les enfants apprennent souvent de leurs parents même à n'aimer rien. Enfin, je voudrais retrancher devant eux à l'égard des amis tous les compliments superflus, toutes les démonstrations feintes d'amitié et toutes les fausses caresses par lesquelles on leur enseigne à payer de vaines apparences les personnes qu'ils doivent aimer. Il y a un défaut opposé à celui que nous venons de représenter, qui est bien plus ordinaire dans les filles. C'est celui de se passionner sur les choses même les plus indifférentes. Elles ne sauraient voir deux personnes qui sont mal ensemble sans prendre parti dans leur cœur pour l'une contre l'autre. Elles sont toutes pleines d'affection ou d'aversion sans fondement. Elles n'aperçoivent aucun défaut dans ce qu'elles estiment et aucune bonne qualité dans ce qu'elles méprisent. Il ne faut pas d'abord s'y opposer, car la contradiction fortifierait cette fantaisie. Mais il faut peu à peu faire remarquer à une jeune personne qu'on connaît mieux qu'elle tout ce qu'il y a de bon dans ce qu'elle aime et tout ce qu'il y a de mauvais dans ce qui la choque. Prenez soin, en même temps, de lui faire sentir dans les occasions l'incommodité des défauts qui se trouvent dans ce qui la charme et la commodité des qualités avantageuses qui se rencontrent dans ce qui lui déplaît. Ne la pressez pas, vous verrez qu'elle reviendra d'elle-même. Après cela, faites-lui remarquer ses entêtements passés avec leurs circonstances les plus déraisonnables. Dites-lui doucement qu'elle verra d'eux-mêmes ce dont elle n'est pas encore guérie quand ils seront finis. Racontez-lui les erreurs semblables où vous avez été à son âge. Surtout, montrez-lui le plus sensiblement que vous pourrez le grand mélange du bien et du mal qu'on trouve dans tout ce qu'on peut aimer et haïr pour ralentir l'ardeur de ses amitiés et de ses aversions. Ne promettez jamais aux enfants pour récompense des ajustements ou des friandises. C'est faire deux maux. Le premier, de leur inspirer l'estime de ce qu'ils doivent mépriser. Le second, de vous ôter le moyen d'établir d'autres récompenses qui faciliteraient votre travail. Gardez-vous de bien les menacer, de les faire étudier ou de les assujettir à quelques règles. Il faut faire le moins de règles qu'on peut. Et lorsque l'on ne peut éviter d'en faire quelqu'une, il faut la faire passer doucement, sans lui donner ce nom, en montrant toujours quelques raisons de commodité pour faire une autre chose dans un temps, dans un lieu et dans un lieu plutôt que dans un autre. On courrait risque de décourager les enfants si on ne les louait jamais lorsqu'ils font bien. Quoique les louanges soient à craindre à cause de la vanité, il faut tâcher de s'en servir pour animer les enfants sans les enivrer. Nous voyons que saint Paul les emploie souvent pour encourager les faibles et pour faire passer plus doucement la correction. Les pères en ont fait le même usage. Il est vrai que pour les rendre utiles, il faut les assaisonner de manière qu'on en ôte l'exagération, la flatterie, et qu'en même temps, on rapporte tout le bien à Dieu comme à sa source. On peut aussi récompenser les enfants par des jeux innocents et mêlés de quelque industrie, par des promenades où la conversation ne soit pas sans fruit, par de petits présents qui seront des espèces de prix, comme des tableaux, des estampes, ou des médailles, ou des cartes de géographie, ou des livres dorés,